la caméra. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement incliner la tête, on va prier, on va se remettre entre les mains du Seigneur. Ensuite de ça, notre étude va débuter pour aujourd'hui. Seigneur, merci, Seigneur, de l'avantage que nous avons, Seigneur, de pouvoir librement s'assembler, librement regarder ta parole, librement, Seigneur, sans contrainte, prendre ce temps-là, Seigneur, à étudier, à sonder les Écritures. Seigneur, donne-nous cet après-midi notre pain quotidien. Donne-nous, Seigneur, d'être des hommes, des femmes, Seigneur, qui se construisent en toi, Seigneur, qui vont devenir, Seigneur, par la connaissance de ta parole, des fils et des filles, Seigneur, à l'état d'homme fait, ô Dieu. Je te demande, Seigneur, de bénir ton peuple qui s'est assemblé, ceux qui vont écouter, Seigneur, par les différentes plateformes web, ainsi, Seigneur, que moi-même qui dois porter l'enseignement. Je te demande, ô Dieu, dans le nom de Jésus, donne-nous, Seigneur, d'apprendre et d'obéir à ta parole. J'ai prié, Seigneur, en ton nom. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, vous allez tourner, bien entendu, bien aimé, dans Éphésiens. C'est là qu'on est rendu. On va juste reprendre un peu où on avait laissé la semaine dernière et je vais conclure une section, si vous voulez, un peu aujourd'hui. Donc, la semaine dernière, on étudiait dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 11 à 22, et c'est ce qu'on va terminer aujourd'hui. On va avoir probablement même le temps d'ouvrir l'autre section. On a regardé en quoi était l'homme nouveau, la différence entre l'avant-conversion et l'après-conversion. On a vu la séparation, si vous voulez, des choses de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. C'est toutes des choses qu'on a vues la semaine dernière. On a regardé aussi l'origine de certaines choses. Je vous ai parlé de... J'ai pris l'exemple de la circoncision, si vous vous rappelez, la semaine dernière, qui devenait comme une alliance. Puis on a vu six formes d'alliance qui avaient été contractées, y comprenant la nouvelle alliance. On a vu l'alliance qu'il y a eu sous Noé, quand Dieu dit à Noé, « Voici l'alliance que je traite. » Et il a mis un signe, il dit, « Je mets l'arc dans la nue. » Et chaque fois que je vais voir l'arc, je vais me rappeler, c'est ce que Dieu dit, je vais me rappeler que le déluge, que les eaux ne viendront plus couvrir la terre pour la submerger. C'était une alliance. On a vu, là je vous prends les principales, on a vu l'alliance au Sinaï, l'alliance de Moïse qu'on appelle. L'alliance de Moïse, elle, qui était une alliance traitée entre un peuple donné. On avait vu aussi l'alliance d'Abraham, si vous vous souvenez bien, et Moïse dans cette alliance-là. Et c'est là que les lois ont été données comme telles. Les lois existaient. Mais dans l'alliance avec Moïse, ils ont été mis en 10 commandements. Il y avait plus que 10 commandements. Il y avait des lois sociétaires, si vous vous rappelez, je vous en ai parlé pour vivre en société. Il y avait un pan de la loi même dit, et je vous le dis en parenthèse, religieux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un pêche? Comment il doit régler la chose entre lui et Dieu? Il devait aller vers le sacrificateur, amener soit deux tourterelles, un pigeon, tout dépendant de le type de péché. C'était une forme d'alliance. C'était la partie sacrémonielle de l'alliance. Et on s'est rendu, on a regardé la semaine dernière, jusqu'à la nouvelle alliance. L'alliance que Dieu a traitée avec vous et moi, c'est une alliance. C'est une alliance au même titre que les autres alliances. C'est-à-dire que dans cette alliance-là, nous, on a fait de Jésus notre Seigneur, notre Sauveur, et lui a payé le prix du sacrifice pour l'alliance, c'est-à-dire Dieu prenant une chair, vivant la vie parfaite pendant 33 ans qu'on aurait dû mener, que personne de nous n'a mené, ni nos prédécesseurs. Donc, soyons clairs, Jésus est venu le mener. Ensuite de ça, il a pris les bénéfices de sa vie parfaite et il a scellé l'alliance par le sang, c'est-à-dire par son propre sang. Il est mort de la mort, et rappelez-vous que je vous ai parlé de la crucifixion, il est mort de la mort dont on méritait le châtiment. Et il est ressuscité pour votre et ma justification. Il est mort pour vous, il est ressuscité pour vous, afin que dans cette nouvelle alliance-là, on puisse bénéficier de tous les avantages. Et c'est ce qu'on a vu, les avantages. Avant, on était païen ou gentil. Les gens n'aiment pas le terme païen, mais pourtant, païen veut juste dire non-juif, gentil. Et on n'avait pas accès aux alliances, c'est ce que la Bible nous dit. On n'avait pas accès aux promesses. On n'avait pas accès à la vie même de Dieu. On était étranger à la vie de Dieu. C'est ce qu'on avait pris. Et on était sans espérance. On a vu ces choses-là. Là, maintenant, on est rendu à regarder, à partir d'aujourd'hui, les relations qu'on a gagnées, si vous voulez, avec cette alliance-là. Les profits de l'alliance. On va regarder le fruit des relations dans l'Église dues à cette alliance-là. On va regarder dans ce cours-là, principalement, si vous voulez, le fruit de la relation avec Dieu qui nous a amenés dans une autre dimension de la vie spirituelle. Donc, vous tournez dans Éphésiens, et là, on commence, j'ai fait une légère rétrospective, on commence Éphésiens chapitre 2, on avait lu la semaine dernière jusqu'à... on avait lu la longue lecture que je vous avais faite, là. Mais là, je vous l'avais toute séquencée. Là, on va prendre les versets 17 à 18 du chapitre 2 d'Éphésiens. Donc, les versets 17 et 18 nous disent « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » C'est-à-dire le sang de Christ, c'est ce qui nous unit les uns aux autres. C'est ce qui nous donne l'accès. C'est ce qui nous donne l'accès à Dieu. Si on regarde dans l'Église, et si vous vous rappelez la prédication que je vous ai faite l'autre semaine, dans l'Église, on n'a pas tous la même couleur de peau. On n'a pas tous, même ceux qui se disent « Québécois pure laine », exemple, la sœur qui est ici vient du coin du lac Saint-Jean, et moi, je viens de Montréal, un autre peut venir, et il peut avoir différents accents. Exemple, si je veux savoir si quelqu'un vient de Québec, tu lui fais dire un poteau, et voilà, la sœur me fait, parce qu'il ne dit pas un poteau comme ça, il dit un poteau. Donc, on connaît les différentes souches un peu dans notre propre province, si vous voulez. Ce qui nous donne accès à Christ, ce qui nous donne accès à Dieu, c'est le sang qui a été versé. C'est cette nouvelle alliance-là dont on a parlé. La parole de Dieu nous dit qu'il est venu annoncer la paix à nous qui étions loin. C'est-à-dire, on n'avait jamais participé aux alliances, on était loin du Seigneur, à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient prêts. C'est-à-dire, au peuple juif, au prosélytisme, et ainsi de suite. Et le sang de Christ, c'est ce qui doit nous unir les uns aux autres. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit devant Dieu, il n'y a pas de Québécois, il n'y a pas d'hispanophones, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Haïtiens. Il y a ses enfants et ceux qui ne le sont pas. Bon. Quelqu'un, une fois, me disait, ouais, on est tous les enfants de Dieu. Je dis, non, il ne faut pas se tromper. On est tous les créatures de Dieu. Parmi ces créatures, il y en a qui sont fils et filles d'adoption. qui ont choisi de se faire adopter par Christ. Ils ont choisi l'alliance, la nouvelle alliance dans laquelle on vit. Un jour, on va rentrer dans une autre alliance ou un autre type d'alliance dans le millénium. Mais pour l'instant, on vit sous l'alliance de la grâce où vous êtes sauvés. Et c'est la sixième alliance dont je vous parlais la semaine dernière, où le salut est donné gratuitement par l'œuvre de Christ. Par la foi, on se saisit de la grâce que Dieu nous a offerte. Et c'est cette alliance-là dont Paul parle dans Éphésiens 2, dans le verset 1, quand il dit « Vous étiez morts par vos offenses » et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre. Pardonnez-moi. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Et il explique, si vous vous rappelez, on a regardé la semaine dernière, il explique quel était notre type de vie, comment on vivait sans la nouvelle alliance. Comment on vivait éloigné de Dieu. Et c'est pour ça que le verset 17 dit, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts, c'est-à-dire ceux qui étaient dans les alliances, contenus dans les autres alliances dont on a parlé, qui étaient prêts, ils n'étaient pas rendus, et nous qui étions loin, c'est-à-dire étrangers aux alliances. » Et dans le verset 18, c'est par lui que nous avons les uns et les autres accès. Donc, notre accès nous est donné en Christ. Le sang de Christ nous purifie de tout péché et c'est ce qui nous donne accès. Si vous vous rappelez, en lisant les évangiles, quand Jésus est mort, vous allez tourner dans Matthieu chapitre 27, on va prendre le verset 51, où la parole de Dieu nous dit « Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. » Quand Jésus a donné sa vie, il est arrivé un événement qui pour les gens qui n'ont pas une réelle connaissance de l'Ancien Testament, qui n'ont pas une connaissance que nous avons de l'Ancienne alliance et du contenu des différentes alliances qu'on avait dans l'ancienne alliance, le temple, le voile du temple, ainsi, souvent ne voudront pas signifier grand-chose pour eux, mais je vous ramène ici, dans notre étude, je vous ramène à ce qui s'est passé quand Jésus a donné sa vie. Quand Jésus a expiré, le verset 51 de Matthieu 27 nous dit, « Et le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. » Ce voile-là, c'était le voile qui séparait le lieu très saint, ou le saint des saints, au restant du temple. C'est-à-dire, dans les autres parties du temple, et rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué que nous, on est maintenant le temple du Saint-Esprit, et on va avoir le temps probablement d'en parler la semaine prochaine, donc retenez bien ce que je vais vous dire. On est bâti, si vous voulez, comme le temple était bâti. C'est-à-dire, le temple avait la cour extérieure qui était pour les nations, l'extérieur du temple. En dedans, rentrer dans le temple, c'était les Juifs seulement. Et le Saint des Saints, le lieu à part, c'est le souverain sacrificateur qui rentrait là une fois par année. Tout simplement. Le restant des services se faisait à l'extérieur du Saint des Saints, se faisait à l'extérieur de cette place-là où résidaient quelques pièces d'ameublement, dont la principale, l'arche de l'Alliance avec les chérubins, Et la présence de Dieu venait à cet endroit-là précis. Et si vous vous rappelez, je vous ai déjà enseigné que l'être humain est un peu fait à l'image du temple. C'est-à-dire, on a notre parvis extérieur, ton corps, que tout le monde voit. Hein, vous pouvez regarder mon corps, puis les gens qui me voient vont dire, ah, ben, c'est le pasteur André. Ça, c'est mon parvis extérieur. J'ai aussi un lieu saint. Je vous donne une métaphore un peu, là. C'est mon âme. C'est pas n'importe qui a accès là. Ceux qui me connaissent mieux ont un accès à mon intimité. C'est-à-dire, avant la pandémie, je vous donne un exemple, avant que la pandémie ait lieu, je m'étais fait comme un titre là, avec moi, là, où j'invitais des gens, puis je disais, je le faisais soit le samedi ou le dimanche, je prenais un petit groupe, et certains d'entre vous êtes venus chez moi, je prenais un petit groupe et je vous amenais manger chez moi. Et je vous disais, ben, c'est un dîner avec le pasteur. Le but du dîner, si vous vous rappelez bien, le but du dîner ou du souper avant la pandémie, c'était pas le repas. Je vous ai dit, le repas est le prétexte à. Le but, c'est de mieux vous connaître, de mieux servir l'Église en étant en contact plus étroit avec vos âmes. Pour ça, je me suis dit à ma femme, on va faire l'effort et on va amener les gens dans notre maison. On va prendre un repas avec, je vais parler avec eux autres librement. On ne prendra pas un verset biblique, c'est pas un enseignement, c'est un échange de brebis à brebis, OK? Ou de pasteur à brebis, pour que je puisse mieux cerner le troupeau. La pandémie a arrêté tout cela, mais vous savez encore que je me déplace, que je fais encore hors des visites. Donc, quand je vais dans l'intimité des gens, on peut savoir beaucoup de choses juste en rentrant dans la maison d'une personne. Hein? Si on est habitué un peu, moi, en rentrant dans une maison, je vais pouvoir dire si la personne vit seule ou si la personne est mariée. Encore plus flagrant chez les hommes. Quand tu rentres dans une maison et que c'est juste un homme qui reste là, les murs sont dénudés, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien, c'est straight. Généralement, OK? Quand tu rentres dans une maison où il y a une dame, s'il y a juste une dame, je vais le savoir aussi par différents éléments. Il n'y aura pas de touche masculine dans la maison. On va être clair. Si c'est un couple, on va voir un peu des deux. Ce que j'aime bien faire, maintenant, on a moins accès, là, parce que les gens font tout de façon virtuelle, mais si vous regardez dans la bibliothèque de quelqu'un, ça va vous en dire beaucoup sur cette personne-là, si vous regardez sa bibliothèque. Donc, il y a un lieu, le lieu de l'âme, c'est le lieu saint. C'est pas n'importe qui rentre là. Généralement, ça va être tes proches. Ça va être les gens qui te connaissent mieux. Exemple, vous êtes venus, et je sais que vous trois, vous êtes venus, qui êtes à l'avant. Vous êtes venus manger chez moi, mais on n'a pas veillé dans ma chambre à coucher. Là. On ne s'est pas assis, ma femme sur un bord, moi sur l'autre, des chaises autour. Ben non, on était dans la salle à dîner, on jase. Hein. C'est un lieu particulier, là, où je ne veille pas avec mes invités, là. Mais ma femme rentre là très régulièrement. Elle est chez elle. Soyons clairs. Quand on parle de lieu saint, on parle d'un lieu d'intimité. Je vous ramène au temple. Il y a des choses qui se faisaient dans le lieu saint. Les sacrifices qui étaient présentés, il y a certaines choses qui étaient faites là. Le lieu de ton âme, c'est un lieu d'intimité. Ou une certaine intimité des gens qui te connaissent mieux. Des amis, des proches, vont avoir accès à ton âme. Vont avoir accès un peu à ta personnalité. Tu vas leur dire des choses qui se sont plus particuliers. Cette semaine, il est arrivé quelque chose qui m'a vraiment frappé. Mais pas physiquement frappé, là, mais frappé dans mon entendement. Vous savez que je m'occupe de mon frère, Je vais chez lui plusieurs fois par jour, il est en perte d'autonomie, et ainsi de suite. Et ces gens-là, des fois, ils ont plus de conscience certains jours que d'autres. Et cette semaine, j'ai passé un moment plutôt difficile où on m'a expédié à un hôpital, on m'a ramené, on m'a expédié à un autre hôpital pour aller passer différents tests. Et je n'ai pas été chez mon frère aussi souvent. Et quand j'ai été, on était rendu sur la fin de la journée, j'ai été y porter de la nourriture, sa médication, je prends ta médication tout de suite pour ne pas l'oublier. À un moment donné, il m'observait, puis je dis, écoute, on va juste ramasser ta vaisselle, je vais la faire tremper, je vais revenir tantôt pour la laver. Mon frère me dit quelque chose que ma mère m'a dit il y a plusieurs dizaines d'années, quand elle-même était atteinte de cette maladie-là. Il m'a dit, André, si tu ne serais pas là, je pense que je mourrais. Parce qu'il était assez conscient pour voir sa dépendance. Parce que je suis dans son intimité, et c'est pour ça qu'il laisse moi rentrer dans son intimité, et que moi, il me partage à peu près tout. Parce qu'il sait que je ne me moquerai pas de lui. Il sait que je ne prendrai pas les choses à la légère. Donc, les gens qu'on laisse entrer dans notre lieu, je vais dire ça comme ça, sain, c'est les gens qui nous sont proches, les gens qui vont nous comprendre, les gens qu'on va pouvoir partager un peu comme il a fait avec moi. Parce que quand j'ai parlé un peu avec lui, j'ai dit non, je ne peux pas venir, j'étais à l'hôpital, et ainsi de suite. C'est là qu'il m'a sorti ça. Il dit, André, je pense que si tu arrives à quoi, tu ne seras pas là. Il dit, je pense que je mourrai. Et ça m'a ramené des dizaines d'années en arrière quand je prenais soin de ma maman à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, je suis entré dans un espace de leur vie, si je peux dire ça comme ça, où pas d'autres sont entrés. Mon frère, c'est un homme seul, qui n'a jamais été marié, jamais eu d'enfant. Donc, je pénètre beaucoup plus son âme. Ce lieu-là, c'est un lieu qui n'est pas votre parvis extérieur. Je vous l'ai dit, votre parvis extérieur, vous marchez sur la rue, tout le monde le voit. Vous êtes bâti comme le temple. Et il y a le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est votre esprit. C'est là où vous vous rencontrez avec Dieu. Ce qu'un animal ne possède pas. Quand les gens disent, ouais, un animal, si, puis il faut prendre soin des animaux, parce que ça. Non, non, ça a un âme, pas d'esprit. Et je vous ai déjà fait la différence, c'est plus fin que ça, mais fondamentale entre les deux. L'âme, c'est entre autres le siège de vos émotions. Un chien, un chat, un âne. C'est-à-dire, s'il souffre, tu vas t'apercevoir que l'animal souffre, il va gémir, et ainsi de suite. Ça fait partie de l'âme, OK? Par contre, il n'y a pas d'esprit. Lui, ces deux parties-là sont doublées avec l'instinct. Tandis que nous, c'est doublé avec ce que les gens appellent l'intellect, que je vous dirais jusqu'à un certain point. Avec le spirituel. C'est ce qui vous permet de communier avec Dieu. Un chien, un chat, admettons que tu amènes ton chien chez le vétérinaire, puis qu'il dit, ben votre chien, il a, je sais pas quelle maladie peut avoir un animal, j'ai pas d'animal, attends, il a le cancer du chien, je peux rien vous dire d'autre, votre animal va mourir dans 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ton chien, ça ne le dérange pas, lui, là. Il ne sort pas ni dans le temps, ni dans l'espace. Le temps ne veut rien dire pour lui. Donc, si tu prends une petite gâterie que tu lui donnes, tu dis, viens ici, Rex. Le docteur dit, dans 1 mois, tu vas être mort. Ben, la queue, elle va y branler. Il est bien content, là, lui, là. Parce que ce n'est pas intelligible ce que tu lui dis. Il comprend les intonations, il comprend certains sons. Mais ce n'est pas intelligible. Si le docteur te dit à toi, moi je sais, j'ai déjà eu un diagnostic de cancer une fois, monsieur, vous avez le cancer, ça frappe un peu plus, là. OK? Soyons bien, bien, bien clairs. On est fait de façon à communier avec Dieu. Et c'est cette dimension-là maintenant que l'humain a perdu. On parle des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et les gens souffrent. Les gens cherchent. Cherche dans les religions, dans les philosophies orientales, cherche parce qu'il y a une dimension de leur être qui n'est pas comblée. Il y a une dimension de leur être qui est sans nourriture. Et il y a une réaction. Donc, la parole de Dieu nous dit, dans ce qu'on vient de prendre, Matthieu 27, 51, quand Jésus est mort, et c'est un peu ce que je vais vous parler, en vous parlant un peu du fruit de la relation qu'on a avec le Seigneur. Ce lieu très saint-là, même les Juifs, les plus pieux, n'y avaient pas accès. Tu avais un homme qui avait accès, le souverain sacrificateur. Et je vais vous donner un peu l'explication rapidement comment il apportait une offrande dans le lieu très saint. Comment il apportait l'offrande pour ses péchés, une fois par année, puis les péchés du peuple. Il se rencontrait avec Dieu, une fois par année. On l'attachait avec une corde, puis des clochettes. Puis il rentrait. Au cas où il meurt, il avait juste à le tirer. C'était littéralement ça, là. Et les clochettes, ben, servaient à savoir qu'il était encore en vie. Il bougeait en dedans. Il était encore en vie. OK? Rappelez-vous de Zacharie, à l'heure des parfums, où il y a un ange va y apparaître. Le peuple attend dehors. C'est un autre, mais le peuple attend en dehors. Il y avait différentes choses qui étaient faites en différents lieux du temple. Moi, je vous en donne un. La séparation entre le lieu saint et le saint des saints. C'était un voile. C'est pour ça que Paul va employer le terme. Ici, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès de Dieu, accès auprès du Père. Cet accès-là nous a été donné par la mort de Jésus. Et pour nous bien nous faire comprendre l'accès maintenant auquel on a droit, l'accès qui nous est donné, le voile du temple. Il ne faut pas penser que c'est un petit voile là, que le vent faisait bouger. Là. C'était un voile qui était épais. La Bible nous donne dans le Lévitique la construction, dans le Deutéronome, dans le Nombre, la construction du temple. C'était quelque chose. Là. Puis il s'est déchiré. Comment? Du haut vers le bas. De haut en bas. De Dieu à nous. Je vais vous faire prendre l'image. Il n'y a pas de hasard dans une Bible. Il n'y a pas de mots écrits qui sont inutiles dans la parole. Et ce voile-là s'est déchiré pour nous montrer quoi? Que maintenant, l'accès qui était fermé, l'accès qui était indisponible, était maintenant rendu disponible. C'est pour cela, quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré, ayant cet accès-là à Dieu, avec lequel notre esprit, notre petit lieu très saint à nous, on rentre en communion avec Dieu. Ça s'est fait de haut en bas. L'œuvre, ce n'est pas nous autres qui l'a fait. L'œuvre, ce n'est pas vous et moi qui l'a fait. L'œuvre, c'est Dieu qui l'a fait en Christ, en prenant une forme humaine, en prenant une chair. C'est pour ça que le voile s'est déchiré de cette façon-là. Et ça nous signifiait quoi, ça? Qu'une ère nouvelle venait de s'ouvrir, où Dieu, qui résidait ailleurs, à un endroit que tu n'avais pas accès, dans le Saint des Saints, maintenant est venu résider en nous, dans notre lieu très saint à nous, si vous voulez, ou dans notre Saint des Saints à nous. Par vie extérieure, lieu saint, hein, et lieu très saint, ou saint des saints. Paul peut dire que par lui, par Jésus-Christ, on a un accès. Accès qui est impossible à avoir. Accès qui nous était fermé par le voile. On ne pouvait pas jeter un coup d'œil dedans. C'était, comme je dis, c'est pas un petit voile qui flottait au vent, là. Donc, on pouvait rien, on savait rien de l'autre côté. Il y avait un homme qui le savait, le souverain sacrificateur. Mais cet accès-là, maintenant, nous l'avons tous en Christ. Chacun d'entre nous peut, en entrant chez eux tantôt, entrer dans la présence de Dieu directement chez lui. Chez lui, il peut rentrer dans la présence de Dieu. Donc, l'accès à Dieu ne réside plus ailleurs. L'accès à Dieu réside en nous. On a une communion intime avec Christ parce que le prix a été payé. D'accord? On va regarder maintenant une autre partie. On regarde le fruit de la relation avec Dieu, relation les uns avec les autres. On y a gagné aussi. Les versets 19 à 22 maintenant, qu'on va reprendre, qu'on a lu la semaine dernière. Ainsi donc, le verset 19 du chapitre 2 d'Éphésiens, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Retenez ces termes-là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, on va en parler abondamment. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. On va regarder les éléments de ces quatre versets-là. La parole de Dieu nous dit ici, ainsi donc, on n'est plus des étrangers, des gens du dehors, mais on devient concitoyens. Quand on devient concitoyen, ça veut dire qu'on devient participant. Je vous donne un exemple, vous êtes citoyen de la ville de Montréal. Quand la ville de Montréal donne... un accès privilégié, mettons, à ses citoyens pour quelque chose. Eh bien, vous y avez droit si vous restez à Montréal. Si vous restez à Laval, vous n'avez pas droit. Je me rappelle, là, je ne sais plus si ça se fait encore, mais à un moment, je ne me rappelle plus quel maire était là, deux fois par année, je crois, on donnait accès à tout ce qui était activité de la ville, jardin botanique, cosmodome, et ainsi de suite, gratuitement. Je pense que c'était une journée par année, gratuitement, où c'était une porte ouverte avec les bibliothèques, et ainsi de suite. Mais il fallait que tu aies une preuve de ta citoyenneté, je vais appeler ça de même, montréalaise. Il fallait que tu puisses prouver que tu habites à Montréal, parce que c'était un privilège aux gens qui habitaient à Montréal. Ceux qui venaient, mettons, de Laval ou de Longueuil, pouvaient entrer aussi, mais eux devaient payer le droit de passage pour l'activité. Mais cette journée-là, c'était une journée citoyenne où les citoyens de la ville de Montréal pouvaient visiter certaines choses. Je me rappelle, j'avais été visiter le château Ramsay parce que je m'étais toujours demandé un peu qu'est-ce qu'il y avait un peu là-dedans. J'avais lu l'historicité de ça et je voulais aller voir. Et cette journée-là, c'est la journée, je pense, des musées, où si tu étais citoyen de Montréal, tu pouvais aller dans n'importe quel musée. Il y avait même des navettes qui faisaient d'un musée à l'autre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je me rappelle parfaitement. Et j'ai été visiter ce musée-là, sans payer un sou. Si je voulais y aller le lendemain, ben, ça aurait été payant. Donc, il y a des privilèges citoyens qui existent aussi. Et là, je vous ai donné un pâle-reflet là, qui existe à être concitoyen des saints, dont l'accès à la présence de Dieu, dont l'accès à l'alliance que Dieu a mis en place, à la nouvelle alliance, avec ce que Christ lui a déposé. Qui dit alliance, dit qu'il va avoir un dépôt, c'est-à-dire un alliance, il y a des choses qui sont contenues dedans. Quand un homme et une femme se marient, ils vont prononcer, ils vont faire des promesses de leur bouche. Quand je fais, moi, Souvent, des mariages, les mariés vont être nerveux et ainsi de suite. Donc, on minute le mariage et au besoin, je lui dis, si vous n'êtes pas à l'aise, on va pratiquer. C'est-à-dire, je ne lui fais pas prononcer les vœux, mais je vais lui faire faire une certaine part du cortège. Je vais lui dire où s'arrêter. On va minuter le mariage. Hein, je dis, généralement, tu t'arrêtes avant la troisième rangée, t'arrêtes à la troisième rangée, je descends avec le marié. Là, je vais dire, qui donne cette femme en mariage? Le papa va dire, c'est moi. Et ça montre un exemple un peu. Là, le marié va prendre sa future épouse, puis il va l'amener. C'est-à-dire, il va avoir une forme de décorum, de fonctionnement. Eh bien, dans la nouvelle alliance, il y a un décorum, il y a un fonctionnement. On ne fait pas les choses de n'importe quelle façon. C'est-à-dire que dans l'alliance, Dieu a mis des choses qu'il nous a promis. Et il y a certaines choses qui doivent être là, nous concernant. Ta vie, elle doit être sur l'autel. Ta vie doit être sur l'autel. Tu ne peux pas dire, je marche avec Christ. Et vivre de n'importe quelle façon. Il y a une façon de se comporter dans le Seigneur. Et j'expliquais à un couple, ben là, c'est pas dans ce pays-ci, là, mais j'ai parlé avec lui hier, entre autres. Puis il y a des pays, comme lui, dans le pays où il est, là, le mariage devant les autorités, le mariage civil a lieu aujourd'hui. Puis le mariage. Ce qu'eux appellent religieux, c'est la semaine prochaine. C'est comme en deux phases, en deux temps. Ils ont une façon de fonctionner. Dieu, le Seigneur, a aussi une façon d'opérer. Il s'attend à ce qu'un chrétien, exemple, soit pas vêtu de n'importe quelle façon. Il s'attend à ce qu'un enfant de Dieu se comporte d'une certaine façon, parle d'une certaine façon. Il y a une forme de langage qu'on doit bannir de nos bouches. Soyons là. Il y a certains comportements qui sont propres aux fils et aux filles de Dieu. Soyons là. La parole de Dieu nous dit dans les versets qu'on a pris, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Donc, on ne se comporte pas comme des étrangers. On ne se comporte pas comme des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Comment est-ce qu'on se comporte? Comme des concitoyens des saints, comme des citoyens du royaume de Dieu. Même si vous avez encore les deux pieds sur la terre, comment on doit se conduire? On doit se conduire comme des saints. Le pasteur Hannibal disait, est-ce que vous êtes parfait? Ou je vous le paraphrase, là. Est-ce que vous êtes sans péché parce que Christ vous a sauvé? Non. Oui, on bronche tous encore. On ne doit pas aller se vautrer dans le péché, soyons clairs, parce qu'on est concitoyens des saints. Long terme, dans la partie C du verset 19, gens de la maison de Dieu. Tantôt, je vous ai parlé du lieu extérieur, le parvis, les nations pouvaient aller là, ben, la cour extérieure qu'on appelle, les prosélytes pouvaient aller là, et ainsi de suite. Il y avait des choses qui se faisaient à l'extérieur. Il y avait des choses qui se faisaient à l'intérieur où c'était juste des Juifs. Rappelez-vous, quand Paul, dans l'Acte des Apôtres, on l'accuse d'avoir fait pénétrer des Grecs, c'est pas dans le Saint des Saints qu'il y avait le sacrificateur, le souverain sacrificateur. De les avoir introduits dans le temple, ce qui était un sacrilège, c'était juste les Juifs. Maintenant, on est gens de la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire. Des hommes, des femmes, qu'on peut entrer, qu'on a un libre accès parce qu'on est sous une alliance. Christ a donné la nouvelle alliance et on a adhéré, on est sous une alliance. Même on peut rentrer dans le temple. Nous, personnellement, on peut aller directement dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, dans la prière, avec des requêtes. Avec des louanges, de l'adoration et ce qu'on peut amener dans le lieu, le Saint des Saints. Le verset 20, il dit, vous avez été édifié. Édifier quelque chose, c'est le construire. Édifier quelque chose, c'est de le mettre, prendre les différents matériaux et les mettre en ordre. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres. Qu'est-ce que le fondement des apôtres? C'est la base. Après ça, chacun de vous, choisissez comment est-ce que vous allez construire. Rappelez-vous les maisons, les matériaux. Les matériaux du bois, du foin, du chaume, ou des pierres précieuses, de l'or, de l'argent. Les premiers matériaux brûlent assez facilement, merci. La parole de Dieu a dit, le feu va passer, puis si l'œuvre résiste, la personne va avoir une récompense. Si l'œuvre résiste pas, parce qu'elle était mal construite, eh bien, il va être sauvé comme à travers le feu. Donc, le fondement des apôtres, le fondement de la parole, ce que la parole de Dieu vous donne dans ses différents éléments de votre marche chrétienne, le pasteur ou celui qui vous enseigne ne peut pas faire votre marche. On a été édifié sur un fondement. La construction vous appartient. Après ça, on va parler de pierre. Pas de pierre, l'apôtre Pierre, mais de pierre. De pierre physique. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre. Étant la pierre angulaire. Donc, on va regarder maintenant, je vous ramène les choses, parce que je veux vous parler de cette fameuse pierre-là, les changements qu'on a connus. C'est-à-dire, on est passé, dans ce qu'on vient de lire, de loin de Dieu à proche. Ça, c'est les changements qu'on a connus. D'incirconcis à membre de la famille de Dieu. On a passé d'étranger à citoyen. C'est ce que l'œuvre de Christ a fait avec nous. L'apôtre, à partir d'ici, va comparer l'Église à une construction, à l'édification d'un bâtiment, à la construction d'un temple. La Bible nous dit ici, verset 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple. » Verset 21, « Pour être un temple dans le Seigneur. » Christ étant la pierre de l'angle. La pierre de l'angle est comprise de deux façons dans le langage des étudiants de la Bible. La pierre de fondement ou la pierre de fondation, généralement une énorme pierre qui était taillée d'une certaine façon. Et d'une autre façon, elle est comprise aussi comme la pierre de l'angle, c'est-à-dire la pierre sur laquelle l'édifice, le restant de l'édifice, s'alignait pour être droit. Une pierre d'angle, il lui donnait un angle 45. Et les autres murs étaient alignés sur le 45. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour que ce mur-là soit droit, ce mur-là soit droit. Et ensuite de ça, quand ils construisaient les deux autres murs, soit aussi, c'est la pierre de l'angle, soit aussi droit pour former un édifice, une structure solide, une structure qui était bien alignée, une structure qui avait une allure qui était, somme toute, convenable. Est-ce que vous vous rappelez, les disciples parlent avec Jésus dans l'évangile de Jean? On parlait avec Jésus d'une tour. Bien, c'est plutôt Jésus qui lui parle. D'une tour, la tour de Siloé, qui s'est écrasée et elle a tué 18 personnes, je pense. Si ma mémoire est bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Vice de construction. Tour mal bâti. Je me rappelle de ce passage-là. Je m'en étais servi lorsque j'avais prêché sur le chrétien et les accidents. J'avais déjà donné une prédication il y a longtemps. Tellement longtemps, je l'ai donné à peu près, je vous dirais, 2 mois après que mon fils soit décédé. Parce que tout le monde me disait, ah, comment ça se fait? C'est arrivé, un accident. Puis là, les gens. Puis à un moment donné, je m'étais mis à réfléchir parce que des gens me disaient beaucoup de choses sur le sujet et j'avais tombé sur ce passage-là. Qu'est-ce que Jésus va leur dire aux apôtres? Il va dire, bien, la tour a tombé sur eux autres. Un accident. Pensez-vous qu'il était pire que tous les autres habitants de Jérusalem? Mais si vous ne vous repentez, vous mourrez tous également. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir écrasé par une tour, là, quand il dit, vous mourrez tous également. En voulant dire, le sort de la première mort, sauf par l'enlèvement, personne ne va l'éviter. On va passer là. Personne ne va éviter. La parole de Dieu nous dit qu'on a été rapprochés, nous parle de pierre d'angle, et c'est ce que je vais prendre un peu avec vous. La pierre d'angle, le reste de la structure est aligné dessus. Et la pierre d'angle, c'est Jésus-Christ. La pierre de l'angle, c'est Jésus-Christ. C'est une structure spirituelle. C'est une image qui nous est donnée ici. Si une structure ne tient pas bien, c'est que la pierre de l'angle, c'est pas une bonne pierre. Soit dit en passant, Christ est une bonne pierre. Ça veut dire que les gens qui dérapent, qui s'égarent, qui vont enseigner des choses qui sont tout à fait à l'extérieur de la parole, la prenant comme si c'était la parole, ces gens-là ont une mauvaise pierre d'angle. Ils sortent de la Bible, ils sortent de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que les gens viennent à croire toutes sortes de choses. Soyons clairs, au cours de mes différentes interventions, du ministère que j'exerce, j'ai entendu toutes sortes de choses. Des gens me dire plein de choses. Puis je disais, oui, mais où tu prends ça dans une Bible? Oui, mais un tel me dit, non, non, où tu prends ça dans une Bible? C'est ça qui est important. Je dis souvent que les gens, ça les insulte, ça les dérange un peu quand je dis ça. Quand je dis, tu sais, ce que tu penses, on s'en fout. Puis ce que je pense, on s'en fout aussi. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Si tu ne retrouves pas dans la parole le schéma mental ou le schéma que tu te fais spirituel d'une chose, d'un événement ou d'une conduite que tu dois avoir dans la Bible, bien, il faut que tu te poses la question si c'est biblique. C'est la question saine à se poser. La Bible dit qu'on bronche tous de plusieurs façons, puis de plusieurs manières. Il n'y a pas de problème à broncher, dans le sens que c'est par grâce qu'on est sauvé. Mais si on sort hors de la parole, si tu n'es plus dans l'angle des deux pierres, bien c'est le bâtiment qui va s'écrouler. Pourquoi? Parce que ça va être mal bâti. Et ça, bien aimé, c'est notre responsabilité de voir à ce qu'on soit bien aligné dans le bon 45, avec la pierre de l'angle qui est Christ, qui est l'œuvre de Christ. Des gens qui vont dire, oui, pour être sauvé, c'est par grâce, mais il faut aussi que tu payes ta dîme. Si tu ne payes pas ta dîme, tu t'en vas en enfer. Mais c'est totalement faux. La Bible dit de payer sa dîme. Elle te donne le conseil de payer ta dîme pour que Dieu puisse étendre sa bénédiction. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont incroyants et qui payent le dîme? Et je vous parle sérieusement. Là. Des gens qui ont dit, « Hey, ça marche. Je vais payer ma dîme. Dieu va me bénir. » C'est très malhonnête. Là. Ces gens-là sont mal alignés sur l'angle. Mais ils font. Ils font pour attirer la bénédiction dans leur maison. Ils s'imaginent que Dieu carbure à l'argent. Mais c'est sûr que, exemple, mesdames, vous allez venir prier vendredi ici. Je disais à Gilles, tu montreras le chauffage. Ces gens-là vont être en jeûne. Ils vont avoir froid, peut-être. Ben, Hydro-Québec, elle ne dit pas, « Oh non, vous autres, vous êtes une église, vous ne payez pas de compte d'électricité. » Non, non, on paye un compte d'électricité. Comment est-ce qu'on paye l'entretien du bâtiment? Bien sûr, ben, à travers les dîmes et les offrandes. Donc, les dîmes, c'est un peu le moyen de financement, de la gouvernance d'une église. Point la ligne. Mais est-ce que quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, on l'expédie en enfer? Bien, ce n'est pas ce que la Bible dit. Là. Des pasteurs vont prêcher au niveau de la dîme pour que les chrétiens tremblent et qu'ils disent, « Je ne paye pas ma dîme, ça y est, je vais te trépasser. » Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Elle ne parle pas de vie ou de mort à ce niveau-là. Donc, il faut bien comprendre ce que nous dit la Bible ici. La parole de Dieu nous parle d'une structure, d'un temple que vous et moi, nous sommes. Elle veut que ce temple-là soit bien construit, bien bâti. Il y a des éléments à amener pour que ce soit bien bâti, bien construit. Dieu a donné la pierre de l'angle. C'est lui qui l'a donné. C'est son œuvre. Mais il n'a pas dit, je vais faire la construction à ta place. Tu choisis les matériaux, foin, bois, chaume ou pierre précieuse. Or, c'est toi qui choisis. Tournez dans Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Quand on parle de pierre angulaire ou de pierre solidement posée pour prendre appui. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. On va trouver les deux éléments là, ici. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire. Elle nous donne les deux termes, là. C'est le fondement, c'est la pierre de l'angle, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui la prendra pour appui. Mais si tu ne la prends pas pour appui, je vous ai déjà dit qu'un frère qui m'était arrivé à un moment donné et. Et je ne prends pas le champ en disant, ben voyons donc. Je prends juste le terme parce que je sais que cet homme-là est sincère. Et quand cet homme-là me dit, hey, il y a un article qui est paru, pasteur, que je veux te montrer, puis je prends l'article, je la regarde, il dit, tu peux la garder, et je me mets à lire, c'est un journal style Inquirer, là, où on dit n'importe quoi là-dedans. Puis bon, il disait qu'il avait découvert l'Arche de l'Alliance, qu'elle lançait des décharges de plasma qu'on ne pouvait pas l'approcher. C'est pas ce que la Bible dit. Et je lui dis, bien-aimé, faut que tu te fies à la parole. Ça, c'est des journaux à potins. Ben, ils veulent juste attirer le sensationnalisme. Ça, soyons clairs. Nous, est-ce qu'on cherche le sensationnel ou on cherche Dieu? Il y a quelqu'un, une fois, m'a déjà dit, moi, pasteur, ce que je voudrais avoir, c'est des miracles. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, pourquoi se voir des miracles? Parce que c'est sensationnel. Qu'est-ce que tu cherches? Jésus ou les miracles de Jésus? Et la parole de Dieu est claire. Jésus, il en a parlé clairement dans sa parole. Il va dire à la foule, il dit, vous venez vers moi parce que vous avez vu des miracles. On va dire, vous ne cherchez pas la bonne chose. À un moment donné, il va dire à une autre foule, vous êtes venu vers moi parce que vous avez mangé du pain. Toutes ces raisons-là ne sont pas bonnes. On doit aller à Christ, on doit aller à Jésus pour Jésus. Est-ce qu'on va voir des miracles? Oui. Est-ce qu'on va voir des choses, quelquefois, qui dépassent un peu notre entendement? Tout à fait. Est-ce qu'on va là pour ça? La réponse, c'est non. Donc, si on construit, et là, je vous donne cet exemple-là, sur l'angle pour voir des miracles, si on construit sur l'angle avec les mauvaises intentions, les mauvais matériaux, pour en payant notre dîme, que Dieu nous donne des fonds. Si on construit, je veux vous donner des exemples pour voir manger du pain. La seule raison pour laquelle on suit Jésus, il nous a sauvés, oui, mais il est Seigneur. Il devient le Seigneur de notre vie. Le restant, on va voir, oui. Le Seigneur va prendre soin de nous, oui, il l'a promis. Mais ce n'est pas les raisons pour lesquelles nous marchons avec lui. Il est Seigneur. Comme je dis souvent aux personnes, soit qu'il est Seigneur ou il n'est pas. S'il est Seigneur, traitons-le comme tel. Si on dit qu'il est Seigneur et on le croit, traitons-le comme tel. Donc, la parole de Dieu nous dit ici, cette pierre-là de l'angle, si on tourne dans 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 5, et vous-même, là j'en viens à votre responsabilité là, avec la pierre de l'angle, et vous-même, comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle, ou un temple, si vous aimez mieux, une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On va prendre la partie A du verset. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. C'est-à-dire, l'Église forme un temple. C'est pour ça que Jésus n'a pas laissé le soin à personne. Il a dit, je bâtirai mon Église. C'est lui qui a bâti. Mais par contre, ton petit temple à toi, c'est toi qui choisis les matériaux. Et Pierre va exhorter les chrétiens en lui disant, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous savez, on peut s'édifier à beaucoup de choses. Hein? On peut construire beaucoup de choses. Dans nos vies, il y a des gens qui. Dans leur vie, il y a des gens qui bâtissent toutes sortes de choses. Jamais un temple. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils construisent toutes sortes de choses dans leur vie. Il y en a pour eux des richesses matérielles et Dieu. Donc, tout ce qu'ils construisent, c'est au niveau du matériel. Il y a des gens, même, ils vont bâtir au niveau spirituel. Ils bâtissent mal, là. Ils vont bâtir. Ils vont croire à toutes sortes de choses qui ne les engagent pas personnellement. Et on en trouve beaucoup dans le monde religieux ou dans le monde spirituel. Je parlais avec un pasteur ce matin, avec un des pasteurs, et je disais, c'est beaucoup plus facile de croire au mensonge que de croire à la vérité. Parce que la vérité va t'engager à quelque chose. Jésus t'engage à quelque chose. Les gens qui disent, non, moi je crois que Dieu est bon. Je vous prends celle-là parce qu'elle est connue. Dieu est juste bon. Donc, Dieu est bon, puis Dieu est bon. Donc, quand tu dis, ouais, mais Dieu est bon, mais Dieu est juste. Non, on ne va pas en entendre parler. Dieu est bon. Puis il s'arrête juste. Dieu est amour. Vous avez jamais entendu? Moi, des fois, j'écoute ça, puis je fais. Dieu est amour, puis il aime tout le monde. Puis en fait, tout le monde va au paradis. C'est diabolique, là. Pourquoi? Ça détourne la personne de sa responsabilité envers Dieu. La parole de Dieu veut qu'on s'édifie, pas de n'importe quelle façon, sur la vérité. Elle veut qu'on construise le temple, pas n'importe quel temple, celui sur la pierre angulaire, là, sur Christ. Et on a une responsabilité face à cela. Je sais qu'aujourd'hui, il circule toutes sortes de doctrines. Il y a des doctrines qui sont des doctrines de démons, celles que je vous ai nommées là. Dieu est bon, puis Dieu aime tout le monde, puis enfin tout le monde s'en va au paradis. Ça fait quoi, ça? Ça fait que les gens ne sont pas des gens engagés. Ils laissent le vice passer, ça fait tout ce que ça lui tente, puis ils disent, le paradis est en fin de mes jours. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, la pierre angulaire, que Christ a mis, la construction va se faire avec ça ici, avec ton obéissance à la parole, avec ce que la parole de Dieu dit que tu vas mettre en pratique, avec ce que Dieu dit de ta vie, que tu vas inclure à ta vie, que Dieu dit sur la vie que tu vas inclure. C'est comme ça que tu vas bâtir ton temple. Puis la Bible va plus loin que ça, ici, dans 1 Pierre, quand elle nous dit on est comme des pierres vivantes, c'est-à-dire chacun pour notre part, puis on forme un édifice, une église. Et là, je ne vous parle pas de l'église avec le grand E, je vous parle de votre église locale. On pourrait parler de l'église. On vit à une époque particulière de l'église, ou même le corps pastoral, à certains endroits, ont des drôles de pensées. La Bible nous avait prévenu que dans les derniers temps, ces choses-là arriveraient. Et moi, en tout cas, j'ai pu voir certaines choses. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans une église locale, c'est pour ça qu'il y a un corps pastoral. C'est pour ça que chacun ne fait pas ce qu'il veut. Bien, parce qu'on veut que la bâtisse soit droite. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, et je sais que c'est plus populaire. C'est pas populaire, là, ce que je vais vous dire là. Aujourd'hui, dans les églises, le mot « discipline » a été banni. Si tu dis à une brebis que tu vas discipliner, « Ouais, ce soir, je vais aller ailleurs. » C'est la vérité. Là. On vit dans un monde que j'appelle, où c'est des chrétiens de faïence. Je ne vous parle pas de vous particulièrement, mais où il va y avoir des chrétiens que j'appelle de porcelaine, de faïence, où Tu dis au frère, non, non, mon frère, fais pas ça, puis le bras trace dans les mains. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? T'en casses un bout à chaque fois que tu parles. Tu peux pas les reprendre. Tout de suite, ils sont outrés. Ils vont partir. Pourtant, la parole de Dieu nous parle de discipline dans une église. Même va plus loin que nous, on va, quelquefois. La parole de Dieu nous dit clairement que si quelqu'un, tu le prends entre toi et lui seul, s'il n'écoute pas, tu feras deux ou trois témoins. Ensuite de ça, tu vois le corps pastoral et ça va aller plus loin que ça. Ça va aller encore plus loin que ça que les pasteurs ne font plus aujourd'hui. Paul va parler dans une des épîtres pastorales que si quelqu'un vit dans le péché, dis-le à l'Église afin qu'il en éprouve de la honte puis qu'il se corrige. C'est rough ça. Aujourd'hui, si tu ferais ça dans une église, tu vides l'église. Soyons clairs. Nous, dans l'église, on a une certaine façon de fonctionner. Vous savez, pour ceux qui me connaissent assez bien, vous savez que j'ai déjà mis des gens en discipline de dire, tu ne pourras pas exercer ton service tant que tu ne régleras pas telle chose. Il faut que ça soit réglé. Parce que moi, un jour, je me rends devant Dieu. Dieu a demandé des comptes de ce que j'ai fait. Soyons clairs. Mais les gens vont choisir de quitter parce qu'ils n'en veulent pas de discipline. Être sur la pierre de l'angle et bien construire, c'est prendre la parole de Dieu et construire sa vie dans les normes, dans les statuts d'une Bible. Mm-hmm. Tu peux avoir ta pensée propre sur des choses. Si ça ne s'aligne pas avec ça, ben c'est un mauvais matériel pour construire ta maison. Là, la Bible nous dit ici dans 1 Pierre, construire une maison spirituelle qui est l'Église, un temple, on est tous des pierres. Quand un maçon construit un mur, je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas maçon, mais en face de chez moi, cet été, il y avait un saint logement, ils l'ont tout débriclé. Puis ils l'ont tout rebriclé. Et au coin de chez moi, il y a une église catholique, OK? Ils ont tout défait les pierres sur un côté, sur la devanture. Et c'est un bâtiment qui est patrimonial, OK? Et ils marquaient toutes les pierres pour les reposer à la bonne place. C'était pas une maçonnerie. J'ai vu deux maçonneries différentes. Une, ils ont défait un mur, ils ont pris les briques, ils ont jeté dans un container. Ils sont arrivés avec des nouvelles briques. Et ils ont fait un motif dans le bricolage. Ils n'ont pas fait ça aléatoire, probablement que le propriétaire de la maison, il a dit, je veux faire rebricler ma maison, regardez la brique, là. Je veux que ce soit rebriqué de la même façon. Il y avait deux teintes de briques à des endroits bien précis. Puis eux, ils ont regardé ça, ils ont défait tout ça, et ils l'ont remonté avec une brique neuve, mais exactement le même schéma. Exactement ce qu'il y avait, juste pas de la même couleur. Avant, il y avait comme une brique glacée, puis là, c'est une brique... ordinaire, une brique normale, mais avec deux teintes. Et j'ai regardé le bricolage qui se faisait, bien, c'est plus du pierrage, qui se faisait à l'église, où on notait pour mettre les pierres à la même place lorsqu'ils remonteraient la devanture et le côté de l'église. Qu'est-ce que ça nous dit, que la parole de Dieu nous dit, « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle ». Ça veut dire qu'on ne construit pas de n'importe quelle façon. Si tu veux construire une maison, eh bien, tu n'es pas en train de construire un chemin pavé. Si vous me demandez, ben moi, je ne serais pas capable, là, j'ai de la misère à planter un clou. Mais admettons que j'aurais l'habilité, on me donne le maître, on me dit, « Hey, construis une maison. » Moi, je décide. Bon, OK. Je pense que je vais faire un beau chemin de pierre. Puis là, je commence à prendre toutes les briques que tu m'as données pour faire le mur, puis je fais un chemin. J'ai construit quelque chose, là, mais je n'ai pas construit... ce qu'on a demandé que se construise. Le Seigneur nous dit quoi construire? Un édifice spirituel, un temple. Il dit de nous édifier pour ça dans une église. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Les sœurs qui m'ont approché pour venir prendre le temps à la prière, je lui dis, OK, on ne fera pas des assemblées dans une assemblée. Je vais vous laisser ce vendredi-là. J'ai parlé avec le pasteur Florent, on s'est entendu sur la même chose. Et je lui ai dit à la sœur, aujourd'hui que j'ai rencontré, Je dis, il ne faut pas que ce soit désordonné. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, fais-toi un peu une plage horaire, si tu veux, et regarde comment... Là, elle m'a expliqué comment... Je dis, d'accord. Parce que je suis mieux qu'elle, puis que je dois décider. Non, parce que la Bible dit qu'il faut fonctionner avec ordre. Il ne faut pas que ce soit une cacophonie. Il faut que les choses soient ordonnées. Donc, Dieu remplit l'Église. Dieu construit l'Église. On choisit, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Tournez dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps, là j'en viens à vous personnellement, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et quoi? Le temple, la maison, le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et personne n'aime entendre ce que je vais dire là, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ça n'appartient pas à toi. Tu appartiens à Christ. Tu appartiens au Seigneur. Tu es un temple. Un temple? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? C'est un temple. C'est un temple. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans, un temple? Ben, on rend culte. Qu'est-ce qu'on fait dans un temple? On sert Dieu. Ben, la parole de Dieu nous dit ici que on est, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'expliquais à un moment donné à quelqu'un que le temple du Saint-Esprit, on ne fait pas n'importe quoi avec ça. Vous savez que, pour ceux qui me connaissaient, vous savez que j'ai un estomac plutôt fragile. J'ai hérité de l'estomac de Timothée. Okay? J'ai un estomac plutôt fragile. Et je vous ai dit que cette semaine, on me barouettait à un hôpital. On m'a amené dans une autre aussi. Parce que c'était d'autres symptômes que j'avais qui n'étaient pas propres à... ils m'ont passé un scan le vendredi. Mais soyons clairs, hier, je disais, ah, j'ai eu une grosse semaine. C'était... Puis il restait dans le fond d'un sac quelques croustilles assaisonnées. On va dire ça, non. Ah, je vais bon, manger. Je me suis endormi à 6 heures ce matin. J'ai dormi 2 heures, je me suis levé, je me suis emmené à l'église. Là, ma femme, elle fait partie de ceux qui me connaissent bien. Le matin, je n'ai pas dormi, je me suis endormi à 6 heures. Elle dit, écoute, tu n'aurais pas dû manger ça. Parce qu'elle, elle me connaît, elle dit, je te voyais faire hier. Dit, je me disais, il ne devrait pas faire ça. Soyons sûrs d'une chose, vous connaissez votre corps. Vous savez ce que vous pouvez rentrer dedans, ce que vous allez digérer, ce que vous ne digérez pas. Mais Dieu connaît votre corps mieux que vous. Mais là, je vous parle d'un autre niveau, au niveau spirituel. Fais attention à ce que tu rentres là-dedans. J'ai déjà dit une fois à quelqu'un, mais il ne s'est pas marqué dans la Bible, « Tu ne fumeras point. Okay. » C'est-à-dire que lui, c'est un fumeur qui ne vient pas lâcher. J'ai dit, c'est écrit que de ne pas détruire le temple du Saint-Esprit, à moins que la cigarette te fasse du bien à toi. Là. Puis si Dieu aurait voulu que tu respectes la boucane, tu aurais mis une cheminée sur la tête pour que tu l'évacues. S'il ne l'a pas fait, il doit avoir des raisons quelque part. Est-ce qu'on prend conscience? Et vous comme moi, là, je me parle à moi aussi, est-ce qu'on prend vraiment conscience de ce qu'on est? On est des pierres vivantes, on vient de l'être. Mais on est aussi un temple pour l'Esprit de Dieu. On ne rentre pas n'importe quoi dans le temple. À un moment donné, dans le sanctuaire, il y a des gens qui avaient commencé à rentrer avec des cafés. Ils s'arrêtaient à prendre un café. Est-ce que vous croyez qu'il y a trop de mal à prendre un café? Mais je connais bien l'être humain, par exemple. Savez-vous pourquoi? Parce que j'en suis un moi-même. Je me suis dit, OK. Ils vont commencer avec ça. Suivant ça, je vais prendre mon œuf McMuffin, je vais l'amener avec moi. À un moment donné, ils vont déjeuner en écoutant la prédication. Là. OK, on va mettre de l'ordre tout de suite. Je vais parler avec Florent, on va mettre de l'ordre tout de suite. Et j'ai appris un peu plus tard que dans certaines églises, les gens arrivent carrément avec le déjeuner. C'est quasiment un service à l'auto. Okay? J'ai dit, je crois que toute chose a sa place. À un moment donné, il faut manger, là, ça a sa place. Ça le dit, ça a sa place. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Quand on parle qu'on est le temple du Saint-Esprit et que Dieu remplit son temple, vous vous rappelez l'image quand Moïse ne pouvait pas rentrer puisque la nuée remplissait le temple? Dieu veut remplir notre temple. Dieu veut remplir notre temple, qui n'est pas un bâtiment, soit dit en passant. Il veut remplir notre cœur, notre esprit, qui reçoivent la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Non seulement Dieu remplit l'Église, cet édifice-là spirituel, on l'a lu tantôt, doit être bien coordonné. Vous savez, c'est quoi la coordination? Je ne le ferai pas parce qu'on a une caméra, là, puis je ne veux pas quitter le champ de la caméra. J'aime vraiment ça, les caméras. Mais soyons bien, bien clairs. Quand je marche, tantôt, je vais retourner chez moi. Quand on termine, ma femme part avec la voiture, je retourne à pied. Okay? Eh bien, il faut que mon corps soit coordonné là, si je veux me rendre jusqu'à la 5e avenue. Si je fais du moonwalk, je n'avancerai pas beaucoup. Là. Donc, mon cardio, mes poumons, mon cœur, mes bras vont se balancer, mes jambes vont avancer. Il y a une coordination pour avancer. Dans le Seigneur, il y a une coordination pour avancer. Le temple, l'édifice, bien coordonné, va rendre, si vous voulez, pour la bonne coordination qu'elle possède. Et quand on parle de coordination, on parle à un moment donné, je ne sais pas si vous avez déjà vu un orchestre, comment ça fonctionne. Tout le monde sait jouer de l'instrument, là, mais tout le monde ne joue pas de l'instrument quand lui décide. Il y a un chef d'orchestre. L'Esprit de Dieu doit être notre chef d'orchestre. Puis il doit décider comment la musique va se dérouler. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un musicien de carrière, loin de là. Ma belle-fille joue du piano, c'est pas une professionnelle, mais ses deux parents, c'est des professionnels. Sa maman, qui est encore vivante, fait encore des tournées là, en Europe, puis ainsi de suite. Elle joue d'un quatuor, là. Elle joue un instrument que je ne connais pas, ça s'appelle la viole de gang. Ça ne me dit rien. Ça ressemble à une sorte de violon. Et quand elle joue, j'ai appris un moment donné, en parlant avec la dame, qu'une musique peut être plus ou moins longue, tout dépendant du chef d'orchestre qui est en avant. La même musique peut être plus longue, la même pièce, ou plus courte, tout dépendant de celui qui dirige. Demande-moi pas de vous expliquer, je ne serai pas capable. Mais et après ça, j'ai regardé sur certains 33 tours vinyles que mon frère possède. Effectivement, d'un, parce que mon frère est un grand amateur de musique classique, je regarde, la même pièce n'a pas la même durée. Notre chef d'orchestre, nous autres, en nous, veut que les sons soient distincts. Vous vous rappelez que la parole de Dieu a dit, personne ne va se préparer à la guerre si celui qui sonne de la trompette ne sonne pas d'une façon distincte. Bien, Dieu s'attend à ce que les choses se fassent comme il faut. Pour ça, il faut être bien coordonné. Chacun a sa part dans l'Église. Chacun a ses choses à faire dans l'Église. Chacun joue un rôle fondamental qui lui appartient à lui. Même si quelquefois, tu ne le vois pas, ton rôle. Chacun tient dans ce rôle fondamental-là, la place de pierre, de brique, si vous voulez, dans un mur, dans un ensemble. Souvent, je dis aux gens, la conversion d'une personne, c'est souvent pas l'apanage d'une seule personne. La personne, elle vient à l'Évangile via toi, mais avant ça, elle avait un cousin qui a parlé, elle a quelqu'un d'autre qui l'a amené à l'église. C'est souvent l'apanage de plusieurs pierres vivantes, si vous voulez, qui vont prendre du temps avec cette personne-là. Je vous ai dit, c'est passé deux choses qui m'ont vraiment frappé pendant la pandémie. Un homme à qui j'avais parlé de l'Évangile 30 ans avant, qui, là, il y avait du temps, on était en pandémie, il m'a retrouvé via l'Église, et il a demandé mon numéro. Et la secrétaire, ne connaissant pas trop bien, a dit, donnez-moi votre numéro, puis je vais lui donner. Je regarde ça. Je ne sais pas c'est qui. Je vais lui téléphoner. J'ai travaillé avec toi quand on était jeune. Donc, ça fait longtemps, parce que je suis plus jeune. Il dit, quand on était jeune, j'ai parlé avec toi, après ça, il m'a dit, oui, je suis ancien dans mon église. Oui, on ne sait jamais. Et il y a une dame, que moi, je n'ai pas de réseaux sociaux, parce que, ben, vous savez que j'aime pas les réseaux sociaux particulièrement. OK? Soyons clairs. Et il y a une dame qui écrit à ma femme, ben, elle me dit, je m'appelle tel nom. Elle dit, vous ne me connaissez pas, mais elle dit, votre mari me connaît. Et j'étais en train de faire une visite, ma femme m'écrit, tu connais-tu cette personne? Non. Je l'appelle. Elle dit, écoute, elle m'a écrit, elle a travaillé à tel endroit avec toi, que tu as parlé de l'Évangile régulièrement. Je ne me rappelle pas d'elle. C'est pendant la nuit, je me suis couché. Je repensais aux gens que à un moment donné, ma femme m'a montré une photo. Je ne la connais pas, cette fille-là. Elle m'a montré une deuxième photo. Je dis, right, OK, là, je sais c'est qui. Je la mettais toujours au même endroit pour travailler. Puis elle venait manger avec moi parce qu'on était isolés. Puis elle m'avait vu prier la première fois. Puis je m'étais levé la tête, je l'avais regardé. J'étais en train de prier avant de manger. C'est étonnant qu'un homme prie avant de manger, comme si la nourriture venait de par elle-même. Et j'avais commencé à y prêcher l'Évangile. Et cette dame-là voulait tout simplement dire à ma femme, dites à votre mari que je repasse souvent dans ma pensée les temps de la parole qu'il a pris avec moi, puis que je me fais baptiser la semaine prochaine. Donc, la parole qu'on donne, elle doit avoir rencontré quelqu'un après que continuer le travail que j'avais débuté. Peu importe. Ce que je veux vous dire, on est des pierres d'un édifice. L'Église, ce n'est pas nous. On fait partie d'une œuvre qui nous dépasse. On est un petit maillon de la chaîne. Il faut l'accepter. Je sais que l'être humain est orgueilleux généralement, mais on est juste un petit maillon de la chaîne. Pas plus que ça. La chaîne, ce n'est pas le maillon, c'est l'ensemble des maillons qui forment une chaîne. Donc, à ce niveau-là, chacun joue son rôle. Chacun est complémentaire à l'autre. Et à ce propos, je vais vous amener deux choses. On est complémentaires des uns et des autres. Je vais vous raconter l'histoire d'un portrait que vous connaissez, que moi, je ne savais pas moi non plus. Est-ce que vous avez déjà vu, ça se vend partout, dans une librairie chrétienne, c'est des mains qui sont comme ça, d'un homme âgé qui prie. Oui? Non? Pourtant, je pourrais aller au CLC, puis je pourrais vous en ramener. Ils vendent des cartes de tout ça, des mains. Il y en a d'autres qui le montrent toutes, là. Un monsieur avec une barbe blanche qui est en train de prier. Je vous raconte cette histoire-là, OK? À la fin, on est à la fin du 15e siècle. Est-ce que vous connaissez le peintre Dürer? D-U, tréma, R-E-R. Tu connais? OK. Cet artiste-là, il avait un ami. Avant qu'il soit connu. Là, aujourd'hui, la sœur m'a fait signe, oui, je sais qui. Donc, elle ne le connaît pas personnellement parce qu'il a vécu au 15e siècle. Mais soyons clairs. Il y avait un ami, lui. Ces deux hommes-là voulaient peindre, voulaient devenir... peintre professionnel, pas peintre de bâtiment, mais des peintres artistiques. Et comme ils étaient tous les deux pauvres, ils ne pouvaient pas se payer les études, faire les voyages en Europe parmi les grands maîtres pour apprendre à peindre. Donc, comme beaucoup d'artistes dans le début, ils étaient fauchés, ils n'avaient pas d'argent. Et ils étaient obligés de travailler pour vivre. Donc, ils ne pouvaient pas se consacrer à leurs arts et aller étudier parmi les maîtres pour devenir ce qu'ils voulaient être. Et donc, ils ont décidé tous les deux de tirer au sort. Et un travaillerait pour financer les études de l'autre, et quand l'autre aurait terminé ses études, lui reviendrait et l'autre irait étudier. Et quand ils ont tiré au hasard, le hasard, entre parenthèses, a tombé sur Dürer. Dürer, c'était lui le premier à partir. Et il a été dans les plus grandes villes d'Europe, chez les plus grands maîtres, étudier l'art pour devenir un grand peintre. Ça lui a pris des années. Et quand il est revenu pour payer sa dette, il était déjà connu. Et il est revenu pour dire, vas-y toi, moi je vais pouvoir te supporter parce que maintenant, j'ai percé le monde artistique à ce niveau-là. Et quand il est revenu, son ami, qui avait travaillé dur, et dans ces temps-là, on travaillait très dur, n'avait plus ni la souplesse dans les mains, ni la capacité d'y aller. Il était rendu trop tard. Ses mains étaient perclues, il n'était plus capable. Et un jour que Dürer était avec lui, dans la même maison, un matin, il est arrivé dans la chambre et lui, il l'a entendu, il était à genoux, son ami en train de prier pour sa carrière à lui, pour que lui réussisse, parce que lui avait investi dans sa carrière. Il avait mis. Et c'est ces mains-là que vous voyez. Le portrait original, c'est un portrait de Dürer. C'est ces mains-là que vous voyez. Quand vous allez à la librairie chrétienne. Vous allez le voir, c'est connu, là, cette peinture-là de lui, pourtant. C'est connu, là. Okay? Et c'est les mains de son ami que vous voyez. Ici, je vais vous donner une image. Derrière ces deux personnes-là, on peut tirer une image. C'est-à-dire, ensemble, ils ont réussi ce qu'ils ne pouvaient pas faire seuls. Est-ce que vous comprenez? Ensemble, ils ont réussi à deux ce qu'ils ne pouvaient faire seuls. Le hasard, en parenthèse, favorisé à ce niveau-là, Dürer. Mais dans l'Église maintenant, l'image, c'est que Christ fait de nous des pierres vivantes. Christ fait de nous des hommes et des femmes avec certaines capacités, avec certaines forces dans le Seigneur. Ces forces-là doivent être mises à la contribution de l'Église. Et là, je ne vous parle pas d'aller travailler puis de vous verser vos salaires à l'Église, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train juste de vous parler cette image-là qui nous est donnée de Dürer est applicable à une Église. Est applicable à une Église jusqu'à un certain point au niveau de nos forces, de nos talents, de nos capacités. Est-ce qu'on les utilise pour le bien du plus grand nombre? Comment les utilise-t-on? Quand la parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes, on est des pierres vivantes pour construire un seul édifice, l'Église de Dieu. Comment on se comporte? Comment on fait les choses? Est-ce qu'on pense que l'Église est à notre service ou nous sommes au service de l'Église? Ça dépend de la conception que vous avez de l'Église, hein? Est-ce que vous pensez que l'Église doit vous enrichir, puis je ne parle pas d'argent, là, doit vous enrichir, doit prendre soin de vous, ou vous allez prendre soin de l'Église? La parole de Dieu nous dit que peu importe, en fait, notre rôle, on s'édifie comme des pierres vivantes, peu importe le rôle qu'on tient, ce qui est important, c'est l'avancement du royaume. Ce qui est important, c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous, on est juste un maillon de la chaîne. On fait juste notre petite part à nous. Vous savez une chose, dans votre vie, dans ma vie, dans la vôtre, on a plusieurs opportunités de se servir ou de servir les autres. On fait un choix. On a l'opportunité. C'est nous qui faisons le choix de ce service-là. L'Église est là pour prendre soin de vous. Les pasteurs, j'ai déjà dit à un groupe, les pasteurs, c'est pas des petits roitelets qui règnent sur une église, là. C'est l'inverse. C'est des serviteurs qui sont là pour servir l'Église. On est là, en fait, pour servir le peuple. Mais vous aussi, vous avez une part à faire. Une part particulière à faire. Est-ce que Dieu vous a donné un talent? Est-ce que Dieu vous a donné une capacité? Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui a zéro capacité, là. Au minimum, vous avez la capacité de prier. Comment on l'utilise? Comment on gère notre temps? Comment on gère l'œuvre? Comment on gère l'œuvre que Dieu a mis dans nos mains, même l'espace-temps que Dieu nous donne? Tu vis jusqu'à 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, mais tu vivrais jusqu'à 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? J'expliquais au pasteur Jacobin, au pasteur Bernard, aujourd'hui, j'avais une discussion avec lui. Quand on vieillit, notre ministère se transforme. Mais un pasteur va toujours rester ce qu'il est. Va toujours rester un pasteur. C'est juste la mécanique de notre ministère. Notre corps vieillit. Notre résistance change. Des fois, la maladie s'installe. Et notre ministère va se transformer. Est-ce que vous connaissez de la célépotée? Est-ce que vous savez c'est quoi? Oui?
Ça s'appelle plus de même, en tout cas.
Oui, non, c'est ce que tu penses. Cette sorte de glue-là que les jeunes, mes enfants jouent avec ça. Je vois une soeur faire une grimace en arrière. Quand mes enfants arrivent avec ça, je n'étais pas content. Et on pourra bien se demander, mais pourquoi ils ont inventé cela? Parce que c'est peu ragoûtant. Hein? Mais savez-vous que c'était pas supposé d'être ça, la célépotée? Ils voulaient faire une nouvelle sorte de caoutchouc. Ça l'a, passez-moi l'expression, ça l'a foiré le projet. Puis on s'est dit, ça servira à rien, cette affaire-là. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ça a plusieurs applications, cette affaire-là? Entre autres, ils se servent de ces petites boules-là pour nettoyer les claviers d'ordinateur. Parce que ça n'endommage pas, puis ça ramasse tout. Ils s'en servent pour bien d'autres choses. Les gens qui sont nerveux, les fameuses balles, là, quand il y en a dedans. Ces choses-là ont même été dans l'espace. Même sur la Lune. Ça en a servi. Les géologues s'en servent pour faire des moules. Et je pourrais vous donner une suite comme ça. Si vous pensez que vous avez en main, c'est de la célépotée comme talent, ça peut servir. Je veux juste vous donner une image. Ça peut servir. Si c'est bien mis à la bonne place au service du royaume de Dieu, ça peut servir. Ce qui avait l'air tout à fait inutile servait à quelque chose. En conclusion, je vous donne le verset 22. Qu'on a regardé. Le verset 22, il dit, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Et on va terminer avec ça aujourd'hui, pour faire une conclusion. Donc, « En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu, un lieu de résidence pour Dieu. » Je devrais entendre des gloires à Dieu.
Amen.
Vous êtes un lieu de résidence. Quand on va dans des résidences, il y a des gens qui sont plus de rangement que d'autres. J'avais une discussion avec un frère, pas si longtemps que ça. Puis il disait, excuse-moi si tout est... J'étais chez lui, si tout est un peu... pas rangé, on va dire ça comme ça. Je vais te faire une petite place pour que tu puisses t'asseoir, soyons clairs. Et je regardais la maison autour. Et ce frère-là, il Alors, généralement, je fais juste le ménage le samedi. Je travaille à l'extérieur. Ils disent, samedi, c'est ma journée de ménage. Moi, tout ce qui m'est passé dans la tête, mais tu ne devrais pas lancer les affaires du lundi au vendredi, en voulant dire, tu devrais un minimum de rangement, OK? Qu'est-ce qu'on fait avec une habitation? Bien, on l'habite. Bien, Dieu nous habite. Il s'attend à ce qu'il y ait un certain rangement, un peu d'ordre dans notre maison. Je vous donne un exemple. Moi, je suis plus ordonné que mon épouse à certains niveaux. Mais par contre, si vous venez dans mon bureau de travail, je travaille, je mets les choses de côté, je travaille, je le ramasse effectivement une journée à toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Quand il y a trop de papier, je ramasse. Mais mon bureau ne me dérange pas, mais le restant de la maison, j'aime à ce que ce soit rangé. Ma femme, c'est le type de femme qui va mettre cela pour le prendre plus tard. Plus tard étant dans 2 semaines. Elle va mettre autre chose. Donc, ce n'est pas une de ses forces. Je lui ai dit en fin de semaine, cette semaine, on va tout laver tous les planchers de la maison. Par contre, à certaines forces que moi, je ne possède pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être complémentaire dans une église. Je vous donne un exemple. Mon garçon va faire une rénovation là, dans sa maison. Il me montrait les plans hier. Je ne comprends à peu près rien là-dedans. Quand j'ai rénové, devinez qui faisait les plans? Mon épouse. Mon épouse a dressé les plans de toute la rénovation qu'on a fait. Et je ne vous dis pas ça à la blague, là, à la céramique près. Elle l'a fait à l'échelle. Ma femme, c'est de valeur qu'elle ne s'y consacre pas. Pour peindre, faire du fusain, vraiment bonne. Et quand elle me disait, André, il faut que tu achètes, je vous donne un exemple, 840 pièces de ce céramique-là. Je vous donne n'importe quel chiffre, mais t'es sûr? Elle disait, je vais en acheter un petit peu plus pour qu'on en encore. Mais c'est ça que ça va prendre. Parce qu'elle avait mesuré, puis elle les avait faites à l'échelle avec la grandeur. Elle me montrait le plan. Elle dit, l'entrée va être comme ça va être comme ça. Talent que je n'ai pas. Vision que je n'ai pas. On va terminer avec ça. Vision que je n'ai pas. Mais il faut que quelqu'un l'ait. Vous êtes d'accord? Si tu veux faire une rénovation, ben mon garçon, lui, c'est simple, il accroche ses choses, puis il s'en va. Puis un contracteur rentre dedans, puis il fait rénover. Mais ce n'est pas mon cas. Donc, j'engageais moi-même des ouvriers, puis la démolition, c'est moi qui la faisais. Ça ne prend pas de talent pour faire ça. La démolition, c'est moi qui la faisais. Mais comment j'aurais fait pour remonter les murs, et ainsi de suite, sans mon épouse? Mon épouse, elle a un talent que je ne possède pas. Elle est capable de voir des choses finies. Je ne suis pas capable. Je vous ai dit la semaine dernière que je me perdais partout. Okay? Le frère, je ne sais pas, mais quand j'étais chez eux, j'ai fait à peu près 20 fois le tour. Hein? Parce que je me perds partout. J'étais avec Rachel, visiter quelqu'un, on s'est retrouvé à Laval. Mais ce n'était pas à Laval, c'était à Montréal. Okay? Je me perds à peu près partout. Le problème, c'est que ma femme se perd partout aussi. Donc, ni un ni l'autre. On est capable de le faire. Donc, le GPS devient mon meilleur ami quand je me déplace à un endroit. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Il faut que quelqu'un le fasse. Je veux me rendre en quelque part. La dernière fois, j'étais avec la sœur Rachel. J'ai dit, non, on a tourné de même parce que je me suis trompé. Non, non, elle dit, tu as fait le carré. Elle dit, c'est là, il faut que tu sortes. Moi, je suis sûr qu'il fallait que je m'en aille de l'autre bord. Fait que, je dis, ben, OK, là, Rachel, je vais le faire, mais il faut être ça. Là, ils ont dit, elle dit, hey, là, ta rue, André. Elle dit, c'est là, non? Pourquoi? Parce que moi, je fais 2, 3 fois le tour d'une place, puis je ne me trouve plus. Là. Je vous ai déjà dit que je me suis déjà perdu. Je vais au même garage depuis des années. J'ai laissé ma voiture là. J'ai décidé de revenir chez moi à pied. Tu sais, c'est dur à faire, là, se perdre à pied. Là. Je me suis perdu. Là. Pourquoi? Parce que les rues convergent toutes comme ça, là, vers une école qui est centrale. Là, je ne savais plus où j'étais. J'étais obligé de demander à quelqu'un sur la rue. La rue Jean-Talon, c'est jusqu'à le bord. Mais si c'était, à un coup, j'ai pas eu pris une grande rue, je savais où j'étais. Mais si les autres ont des talents, je vous donne un exemple. Mon ami d'enfance, mon meilleur ami, mon ami d'enfance, c'est un homme habile dans beaucoup de choses. Et quand on va en vélo, ben c'est toujours lui qui tient la tête. Parce que je ne sais pas où je m'en vais. Donc, c'est lui qui tient la tête. On a fait, moi et lui ensemble, Montréal, jusqu'à Mont-Laurier, là, dépasser Mont-Laurier, là, okay? En vélo en 2 jours. C'était trop en 2 jours. On aurait dû prendre 3, là. On voulait dans le noir avec des lampes frontales, mais ça, c'est autre chose. Donc, on avait décidé de faire ça comme challenge. Mais j'ai pas pris la tête, pas une fois, là. Parce que je sais pas où je vais, c'est la réalité. Mais si je l'avoue pas que je sais pas où je vais avoir un problème. Parce qu'on va se perdre sûr. Est-ce que vous comprenez? On est un édifice, on est des pierres. Et je termine avec ceci. On est une habitation de Dieu en esprit. On doit s'édifier les uns des autres si on reconnaît que les autres ont des talents qu'on ne possède pas, ont des capacités qu'on ne possède pas. On a tous bien aimé notre place. Et on ne doit pas décourager ceux qui veulent faire. On doit encadrer, on doit vérifier. Et on doit être les enfants de Dieu que Dieu veut qu'on soit au niveau du service. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu aujourd'hui, ni plus ni moins, le fruit de notre relation avec Dieu. On a vu comment est-ce qu'on était bâti comme un temple. On a vu dans ce qu'on était bâti, qu'on était des gens de la maison, on n'était pas des gens du dehors, on n'était plus des étrangers, et qu'il faut se comporter comme tel. Il faut avoir le comportement comme tel. Il faut bien aligner notre vie sur la pierre angulaire. Il faut choisir les bons matériaux de construction. Et il faut s'édifier de la bonne façon, sachant que nous ne sommes que des maillons de cette grande chaîne-là. La semaine prochaine, on va regarder cette chaîne-là ou ce maillon-là qu'on est pour former cet édifice-là, on va dire ça comme ça. Ça doit être au service du Seigneur, ça. On n'est pas là pour se servir les uns des autres, on est là pour servir le Seigneur. On va regarder ça la semaine prochaine. Je vous dis tout de suite d'emblée, là, la semaine prochaine, c'est notre dernier cours pour ce qui est de la période du temps des fêtes. C'est-à-dire, suivant ça, l'assemblée, j'ai pris une note ici, l'assemblée du 26 décembre et du 2 janvier n'auront pas lieu. On va reprendre, je crois, c'est le 9 janvier qu'on va reprendre nos cours. D'accord? Donc, on va prier. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser suivant cela. Seigneur, merci, Seigneur, de nous donner l'opportunité, Seigneur, de regarder dans ta parole. Merci, Seigneur, de nous donner la force, Seigneur, les capacités, Seigneur, pour te servir chacun pour notre part, ô Dieu. Seigneur, accompagne-nous, Seigneur, à la maison et fais fructifier en nous ta parole. Fais fructifier en nous les plans que tu as formés sur nous, que nous puissions être des gens attentifs, bien voir, Seigneur, bien comprendre ce à quoi tu t'attends de ton Église, Seigneur, afin, Seigneur, qu'on puisse être efficace pour le royaume de Dieu. Je te remets chacun, chacune des bien-aimés, Seigneur, qui va retourner à la maison, te demandant, Seigneur, de nous garder, de nous protéger, ô Dieu. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, on y répond. Sinon, ben,